Sunderlight Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandianini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer.
Bonjour Camille.
Salut Arnaud.
Ravi de te retrouver à nouveau pour parler santé. Comment est-ce que tu vas?
Bah écoute, super bien, et toi?
Est-ce que sur ta région, tu as retrouvé un petit peu de soleil pour profiter de ces soirées et de ces rides after work?
Écoute, il y a du soleil, il y a des vagues, il n'y a pas trop de vent, c'est parfait.
Tu as la chance d'avoir les vagues.
J'ai
un peu de soleil, il me manque les vagues. Bon, on va parler santé aujourd'hui sur cet épisode, alimentation. Et un thème bien choisi dans l'actualité qui en plus tous les deux nous interpelle et nous intéresse, qui est le thème est de devenir véggie. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce thème et qu'est-ce qu'on va apprendre pendant cet épisode?
Bah, déjà, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais moi je pense que c'est pas une mode, c'est un mode de vie. Il y a tout un tas de raisons de devenir végétarien, végétalien ou vegan. Il y a des raisons éthiques, des raisons sociales, environnementales ou même des raisons de santé. En fait, il y a plein de grandes différences dans les régimes alimentaires non carnés, sans viande. Donc, si ça te va, je te propose qu'on les déroule un peu et qu'on regarde ce qui existe aujourd'hui dans tous les régimes où on ne mange pas d'animaux.
Écoute, ça me va parfaitement bien. Je retiens ce que tu as dit au tout début. C'est un mode de vie et non pas une mode. Et je partage un peu mon expérience. Moi, j'ai basculé également vegan il y a un peu plus d'un an. Et tu comprends tout de suite, en fait, que c'est un mode de vie, puisque si jamais tu ne l'as pas en toi, tu arrêtes très rapidement, puisque ça veut dire t'intéresser à ce que tu manges, ça veut dire cuisiner tes plats, donc ça veut dire du temps et de l'intérêt pour ce que tu fais. Et si tu ne l'as pas en toi, si ce n'est pas un mode de vie, tu l'arrêtes très rapidement, parce que ça, il ne suffit pas juste effectivement d'ouvrir le frigo, de prendre ce qu'il y a ou d'aller faire des courses et de prendre ce que tu as sous la main. Ça demande plus de réflexion et d'intérêt pour ce que tu vas donner à ton corps, en fait.
Clairement, tu vois, je pense qu'on est dans un pays où plus que... Enfin, même si les options se sont améliorées, mais où être végétarien ou vegan, c'est un vrai choix de vie qui demande quand même, je dirais pas des sacrifices, mais en tout cas de l'organisation.
De l'organisation, effectivement.
Et vraiment, quelque part, un peu de méthodologie aussi, quand on veut aller manger dehors avec des potes, etc. Parce qu'il n'y a pas encore dans tous les restaurants des options végétariennes ou véganes.
Ou alors, si jamais tu as l'option végétarienne pour une pizza notamment, tu trouves une pizza où tu as deux poivrons, un poivron jaune et un poivron rouge, qui sont sur ta pizza.
Voilà.
Est-ce qu'il y avait, avant de rentrer vraiment dans le déroulé de l'épisode, puisqu'on parle du pays dans lequel on vit, dans les voyages que tu as pu faire ou dans les aventures que tu as pu lire ou les récits de voyage que tu as pu lire, est-ce qu'il y a un pays ou un endroit où tu t'es déjà dit, alors là vraiment, cet endroit-là c'est top puisque tu peux naturellement être végétarien ou être vegan, en tout cas tu as le choix dans ton type d'alimentation et tu sans vraiment te forcer, ça vient à toi presque. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Moi, je pense que le pays où ça m'a le plus marqué, c'est le Canada. Où, en fait, non seulement tu trouvais des options absolument partout, mais en plus, tu mangeais extrêmement bien. Tu as des restos entiers qui sont végétaliens et qui sont délicieux. Et du coup, je m'étais fait la réflexion et je m'étais dit, c'est quand même vachement plus simple de faire ce choix de mode de vie au Canada plutôt que de le faire en France. Après, franchement, moi, j'ai l'impression que ça évolue dans le bon sens en France, hein, mais ouais. Toi, c'était quoi comme pays?
Alors, je te confirme, ça évolue, c'est lent, mais ça évolue pour moi. Alors, j'ai pas énormément voyagé, mais je suis retourné plusieurs fois aux États-Unis. Pour moi, c'est la Californie. Je pense que le spot californien, c'est en fait une autre culture. Enfin, c'est tu peux même pas essayer de l'importer chez nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est une culture de surf, de bien-être, en fait, de toute une réflexion autour de comment tu t'alimentes. Tu vois, c'est juste, c'est pas manger pour manger. Tu vois ce que je veux dire? La différence entre je vais manger et je vais m'alimenter, en fait. C'est qu'est-ce qui est bon pour mon corps? Ben, eux, ils ont cette réflexion-là dès le départ. Ils font énormément, énormément de sport. Tu vois, je discute régulièrement avec Evans Stevenhard, qui est cycliste, pilote également, et qui habite juste en dessous de Los Angeles. Et en fait, lui part faire ses rides à 6h du matin. Puisque tu as des groupes qui partent à 6h du matin pour aller faire 2h, et ensuite, ils arrivent sur leur lieu de travail. Beaucoup bossent de chez eux là-bas, et ils font leur journée. Donc, ce qui veut dire que le soir, bah oui, tu te couches pas à minuit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as toute une hygiène de vie. En fait, moi, c'est ça que je trouve aussi intéressant dans le fait de devenir végétarien ou vegan, c'est que ça, tu prends conscience quelque part de toute une hygiène de vie, en fait. Et ça bouscule complètement ton hygiène de vie. Des pays que j'ai pu visiter et des lieux où j'ai pu aller, pour moi, la Californie, c'est le sport santé par excellence, en fait, tu vois. T'as le sport, mais t'as aussi le côté santé. Les gens font attention à leur manière de s'alimenter, choisissent leurs aliments. Alors certes, on peut aussi parfois là-bas tomber dans l'excès des poudres, parce que t'as des boutiques de vitamines, comme ils appellent ça, un peu partout. Donc il faut faire attention. Mais en tout cas, t'as vraiment un choix de dingue que nous n'avons pas encore, que nous n'avons pas encore en France.
Ouais. Donc, voilà. J'espère que ça, tu vois, dans une certaine mesure, ça arrivera quand même. Parce que, enfin, moi aujourd'hui, peut-être on peut commencer, enfin, à parler de ça dès le début. Moi, je suis plus végétarienne. Je l'ai été pendant plusieurs années, et j'ai arrêté d'être végétarienne. Je pense il y a cinq ans à peu près maintenant, parce qu'en fait, justement, moi, j'étais un peu toujours à manger dehors. J'avais pas trop le temps de cuisiner, et j'étais pas une très très bonne végétarienne. Et même si le végétarisme m'a, je pense, a profondément changé la façon dont je m'alimente aujourd'hui, mais en fait, je me suis rendu compte que je faisais plein d'erreurs. Et j'ai appris tout ça. Aujourd'hui, je ne le suis plus à 100%. Je pense que je le suis à 90% de mon alimentation. Et voilà. Et je pense que si demain, c'était plus simple de manger végétarien en France, s'il y avait plus d'options, et si justement, on prêtait plus attention, on va y revenir plus tard, mais à comment ne pas se carencer, comment être en pleine forme en étant végétarien, c'est limite plus simple qu'en étant omnivore. Hein. Mais voilà, moi, je crois vachement à ça, et j'espère qu'à terme, on sera tous majoritairement végétariens.
Alors, c'est vrai qu'il y a cette difficulté dont tu parlais, mais il y a aussi cette difficulté où moi, j'ai été confronté quand j'ai basculé. Alors moi, j'étais déjà végétarien depuis, je pense, 2016, depuis où j'ai fait cette épreuve aux États-Unis, où j'ai pris conscience des dégâts que le sucre avait pu engendrer sur mon organisme, puisque dans le cours de cette préparation sur la Race Cross America, j'avais fait 2 hyperglycémies. Et là, c'est autre chose qu'une hypo, hein, très clairement. Donc tu comprends les effets, et là, ça engendre tout un changement d'alimentation chez toi. Et là, j'avais basculé effectivement végétarien, et j'ai poussé jusqu'à être végane. Et en fait, la principale difficulté, c'est l'impact que ça a sur la famille, parce que quand tu deviens végane et que tu as des enfants en bas âge, ça peut être un danger d'embarquer toute la famille avec toi dans du véganisme. Et là, bah, des enfants, quand ils rentrent le soir, tu ne veux pas leur dire « vous allez manger des poireaux ». Enfin, tu vois, moi, j'ai des enfants qui sont petits, 6 et 5 ans, et c'est difficile. C'est difficile parce que tu n'as pas... t'as pas le support qui est facile, ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour cuisiner, et ben quelquefois t'as pas le temps, justement t'as pas ce temps là
bien sûr,
et c'est compliqué. C'est sûr que je pense qu'il y a des moments dans ta vie où tu peux l'être très facilement, je dirais, et d'autres moments où ça demande un peu plus d'implication, toujours cette question d'organisation dont tu parlais. Donc après on va balayer effectivement les bienfaits là, on partageait nos expériences personnelles respectives, mais ce que je te propose, Camille, c'est de balayer, comme tu l'avais dit en introduction, les différents régimes alimentaires non carnés.
Carrément. Alors, le premier dont on parle le plus, c'est le végétarisme. Hein. Le végétarisme, c'est une façon de s'alimenter. Donc, quand tu es végétarien, tu ne manges ni viande ni poisson. En fait, c'est un régime qui vient exclure la consommation d'êtres vivants. Donc, être vivant, c'est du bœuf, du porc, du poulet, du poisson, mais aussi des crevettes, ou même, par exemple, dans certaines marques de bonbons, on trouve encore de la gélatine animale, qui est de la gélatine de porc. Les végétariens, ils se nourrissent, par contre, de produits dérivés d'animaux. Donc, c'est le fromage, les œufs, le lait. On peut choisir d'être végétarien pour des raisons de santé et d'éthique. On peut aussi l'être pour, voilà, pour, par goût. En fait, il y a des gens qui vraiment n'aiment pas du tout le goût de la viande, quoi.
Et puis aussi, parfois, certaines allergies.
Aussi, c'est
vrai. Tu vois, notamment le lait, très souvent, facteur allergène. C'est
ouais,
pareil,
le,
moi, une
le
fois
lait
que j'ai enlevé
vache, ouais,
le lait de vache, derrière, j'ai énormément d'allergies qui ont disparu complètement.
C'est en particulier d'ailleurs sur les allergies respiratoires, hein, si des auditeuristes nous écoutent et en ont, c'est vrai qu'essayer de faire un mois sans lait de vache et regarder ce que ça donne, c'est pas un très gros sacrifice, et souvent il y a des très très bons résultats là-dessus, parce que le lait de vache, t'as raison, c'est ultra inflammatoire, et en fait quand le corps, les bronches vont avoir tendance à produire du mucus. Et voilà, si on a beaucoup le nez qui coule, si on a tendance à être sujet aux rhinites, etc., c'est hyper bien d'essayer de couper le lait de vache. En général, ça marche plutôt pas mal. Pareil, même sur les enfants, hein, c'est toujours à tester avant de médiquer, je pense.
Ouais, je te confirme, c'était mon cas. C'était au niveau du système respiratoire. Les résultats ont été presque immédiats. Immédiat. Et puis, il y a quelque chose, tu parles du végétarisme, et il y a un mot que j'ai entendu, moi, pour la première fois, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est le flexitarisme.
Ouais, alors le flexitarisme, c'est quand tu es végé à temps partiel. Donc voilà, c'est quand tu réduis ta conso de viande, de poisson, mais ça ne veut pas dire que tu arrêtes d'en manger complètement. Bon, après, on met un nom là-dessus. Moi, j'ai des amis qui sont végétariens depuis très très longtemps et qui, de très rarement, mangent du poisson au restaurant quand il n'y a pas d'autres options. Voilà, moi je considère que c'est des végétariens qui de temps en temps prennent une petite liberté, mais aujourd'hui on a mis un mot dessus, ça s'appelle le flexitarisme. Après il y a autre chose, justement sur le thème du poisson, c'est un régime qu'on appelle maintenant le pesco-végétarisme, donc c'est sans viande, mais par contre on choisit de consommer quand même du poisson et des fruits de mer. Voilà, après il y a beaucoup de sujets éthiques, hein, qui se posent sur la consommation de viande ou même de poisson, de fruits de mer, c'est pour ça qu'il y a un autre courant qui existe ensuite qui s'appelle le végétalisme. Le végétalisme va un petit peu plus loin. Ça reste un régime alimentaire, mais par contre, on décide de supprimer toutes les sources animales dans son alimentation. Donc, ça veut dire toujours pas de viande, mais pas non plus de lait, d'œufs. On ne consomme pas d'insectes, même si dans nos cultures, c'est assez rare, mais pas non plus, par exemple, d'escargots, de miel ou de poissons. L'alimentation végétalienne, elle est basée surtout sur des protéines végétales, des légumes, des noix et des fruits. On a tendance à faire la confusion entre être végétalien et être vegan. Le véganisme...
C'est exactement ce que j'allais te dire dans la description, dans la définition que tu donnes du végétalisme. Je reconnais le véganisme presque, tu vois ce que je veux dire ?
Tout à fait. Après, la majeure différence, c'est que, ça tient vraiment à cœur les personnes véganes, et je comprends tout à fait, c'est que c'est pas seulement un régime alimentaire aujourd'hui, c'est aussi décider de ne plus utiliser des produits animaux dans la vie quotidienne. Parce qu'en fait, on en trouve beaucoup. Le cuir est un dérivé, bien sûr, de l'industrie de la viande. Hein. Les cuirs qu'on utilise, c'est d'abord des vaches qui ont été abattues pour leur viande, mais c'est un produit quand même animal aussi. Donc voilà, quand on devient végane, on décide de ne plus exploiter les animaux d'aucune façon dans toutes les sphères de sa vie.
Eh bien, tu vois, dès l'entrée, le début de cet épisode, j'ai appris beaucoup de choses. Et je peux le dire, je suis vegan, peut-être dans mon alimentation, mais pas dans mon mode de vie. Puisque c'est difficile. C'est difficile, c'est très, très difficile. Et donc, je sais aujourd'hui que je suis végétalien.
Ah bah ça,
voilà.
Tu vois, on apprend des trucs. Non, mais c'est vrai qu'après... Et après, au-delà de ça, hein, le débat est plus large. C'est que, par exemple, les véganes ne portent pas de laine animale. Et du coup, voilà, décide de sortir de toutes ces industries-là. Il y a un débat qui se pose aussi là-dessus parce qu'il y a des producteurs de laine éthique. La laine éthique, elle est chère, elle est difficile à trouver, mais ça peut être aussi une autre façon, hein, de concevoir la façon dont on dépense son argent. Parce que moi, je pense toujours que la façon dont on dépense son argent, c'est un vote vers une industrie qu'on veut encourager. Et du coup, il y a plein de personnes véganes qui aujourd'hui aussi propose des marques avec des chaussures véganes, des pulls véganes, etc. Il y a plein d'options. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est hyper bien qu'on sorte du tout animal dans la production de plein de choses et qu'on sorte des tests sur les animaux dans la cosmétique. Et les associations véganes font énormément pour tout ça. Donc c'est super, mais voilà, il y a des grands courants, tu vois, qui sont un peu différents quand même quand on creuse.
Ouais, mais c'est intéressant que tu positionnes, avant qu'on rentre dans les effets et tout ce qu'il y a derrière, les différents axes de l'alimentation non carnée. Et je pense que beaucoup, beaucoup, voire énormément de personnes zappent, en fait, passent de végétarien à vegan. Tu vois ce que je veux dire? Mais
Carrément.
zappent cet effet du végétalisme. Et moi, je te l'ai expliqué, effectivement, dans mon alimentation, bien évidemment, mais par contre, dans un mode de vie aujourd'hui. Je n'ai pas poussé jusque-là pour différentes raisons, de temps, d'organisation, de vie de famille. Ça demande du temps et aujourd'hui, je ne l'ai pas. Peut-être qu'un jour. Mais en tout cas, je tends vers ça, bien évidemment. Et si on va un peu plus loin, Camille, donc tu nous expliquais les différents courants, mais quels en sont les effets? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain, quelqu'un souhaite passer vegan, végétalien ou veggie, quels vont être les bénéfices pour lui, que ce soit psychologique, physiologique, éthique même?
Les premiers bénéfices, ils sont avant tout physiologiques. On en a déjà parlé ensemble dans l'épisode qu'on a fait sur les associations alimentaires, mais j'en remets une couche, hein. Les produits carnés sont très difficiles à digérer. Ils créent un stress oxydatif qui est important sur notre organisme et ça accélère le vieillissement de nos cellules. Manger peu ou pas de viande, c'est s'assurer de mieux digérer, de le faire plus vite, de sentir moins fatigué quand on digère. Et si on respecte bien les combinaisons alimentaires, on s'assure aussi d'une bonne absorption des vitamines et des nutriments. Il y a un autre effet, et je pense que ça, on l'a tous les deux expérimenté et qu'on peut, enfin, nos témoignages sont dithyrambiques là-dessus, hein, c'est que quand tu deviens végétarien ou végétalien, bah, tu manges plus de fruits, tu manges plus de légumes, tu manges plus de céréales, tu découvres ou tu redécouvres plein plein de goûts que
D'accord.
tu ne connaissais pas ou plus, et tu fais le plein de vitamines et de minéraux plus que jamais dans ton assiette.
Moi, j'ai senti vraiment le premier mois où j'ai vraiment, je me suis vraiment préparé mes plats. Tu vois, je me suis vraiment intéressé à ce que je, à ce que je, comment je m'alimentais et ce que je mettais dans mon assiette, dans mes smoothies, tout ça. J'ai souvenir, ça m'a vraiment marqué cette sensation d'euphorie en fait, comme si mon corps était envahi de vitamines, comme tu l'as dit. Mais je sentais une énergie alors que je n'avais pas changé, hormis l'alimentation, autre chose. Je me couche plus tôt, je me lève plus tard. Enfin, j'avais pas rajouté d'heures de sommeil, donc ça ne pouvait venir que de comment je m'alimentais. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai vraiment ressenti une énergie débordante. Le premier mois pour moi était très très marquant. Je me sentais léger, j'avais un peu dégonflé. On a cet effet aussi de, enfin en tout cas pour moi, j'avais senti que j'avais un peu dégonflé, enfin moins lourd, et je me sentais mais une énergie incroyable. Ça m'a vraiment marqué, ouais.
Ouais, pareil, les premiers mois de transition sont assez bluffants, hein. Après, moi j'avais l'impression, tu vois, de gagner 1 ou 2 heures d'énergie dans ma journée. Déjà parce que je les perdais plus sur la digestion à 13h ou 14h, et parce que le soir, après le dîner, j'étais pas complètement cassée. Je sentais que j'avais encore un peu de jus, quoi. Et c'est vrai que, enfin voilà, quand on mange végétarien, bah on mange vachement plus sainement. Si on a peur des carences en protéines, on va en reparler. Mais il y a plein de légumineuses, de lentilles, de haricots qui font hyper bien le job.
Ouais, alors ça, très clairement, tu vois, la carence protéine, pour moi, c'est le message des lobbyistes. Très clairement, il n'y a pas de carence en protéines.
On est
Aujourd'hui,
d'accord.
c'est pas
On
possible
est
de faire une
entièrement
carence en
d'accord.
protéines, quoi. Très clairement.
Bah, surtout qu'on mange quand même hyper protéiné dans un régime omnivore en général, parce que le régime est quand même majoritairement composé de produits animaux. Donc,
Complètement. Tu parlais de transition. Tu as utilisé le mot
ouais.
transition dans. C'est important d'expliquer aux auditeurs, c'est la manière de faire cette transition. Quel conseil, toi, tu peux donner? Moi, j'ai rencontré quelqu'un, tu vois, semaine dernière, on a discuté autour de ça. Elle a mis 7 ans pour faire sa transition, en fait.
Ok.
Pendant 7 ans, moi, je sais que j'étais beaucoup plus radical, puisque moi, c'était une date calendaire. Tu vois, je me suis dit, à compter de telle date, voilà. Et j'ai pas été perturbé plus que ça. Mais qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui écoutent?
Je pense que ça dépend des tempéraments de chacun. Et en effet, tu as deux façons de le faire, hein. Soit tu décides d'y aller du jour au lendemain. Globalement, les inconforts vont être plutôt digestifs qu'autre chose. On ne prend pas de gros risques à arrêter de manger de la viande du jour au lendemain. Hein. On va pas s'effondrer, il n'y a aucun risque là-dessus. Par contre, c'est vrai que si on n'a pas l'habitude de manger beaucoup de légumes, notamment du cru, bon, ça reste très fibreux, donc ça peut un peu agacer le tube digestif. Après, ça se régule. On peut aussi en fait, éviter ça en essayant de manger des petites quantités de crudités en début de repas. Et ensuite de surtout consommer du cuit. Et au fur et à mesure d'introduire de plus en plus de crudités quand ça se régule. J'éviterai de passer à un repas, enfin à des repas où on mange du riz tous les jours et des pâtes et des frites à de la salade verte le lendemain, même parce que même, enfin pour l'organisme, il faut que ce soit durable en fait comme choix. Donc après ça reste un choix de vie, hein. Vous pouvez aussi faire plein de courses, et si vous aimez vraiment le riz et les pâtes, c'est de très bonnes options végétariennes aussi. Juste au lieu de les accompagner de steak ou d'œufs, on peut faire justement des lentilles, des haricots et des sauces avec des légumes, etc. Donc il y a plein de choses à faire. Faut juste éviter de faire blanc noir du jour au lendemain et le faire en bonne intelligence, quoi.
Ouais, je sais pas faire le gris. Je sais pas faire le gris. Donc, on revient sur les effets dont on parlait physiologiques. Je pense à tous ces grands sportifs. Moi, je lis beaucoup de récits d'aventures de personnes qui ont réussi des performances incroyables, un peu comme dans les podcasts, dans le podcast Ultra Talk que j'anime, mais surtout étrangers et notamment les anglo-saxons. Beaucoup ont basculé déjà sur le 100% vegan ou 100% végétarien, de grands sportifs, de grands triathlètes. Quel exemple tu peux nous donner sur ces gens-là?
Les premiers, tu vois, et les premières images que là, moi, j'ai en tête quand on en parle, c'est vrai que c'est des physiques genre d'ultra-trailer, tout sec, à la Scott Jurek. Mais en fait, il y a énormément d'athlètes de très haut niveau qui sont devenus vegan ces dernières années, ou qui le sont depuis très très longtemps. Hein. Mais tu as notamment Carl Lewis, tu as Venus et Serena Williams, Mike Tyson est vegan maintenant, et Lewis Hamilton, qui est d'ailleurs un grand avocat hein, sur ce sujet-là. Après, il y a un super reportage, je ne sais pas si tu l'as vu, qui est sur Netflix, qui s'appelle The Game Changers.
Ouais, je l'ai vu.
Et enfin voilà, pour tous les gens qui sont omnivores aujourd'hui, mais juste curieux du sujet, c'est pas du tout complexant, c'est pas du tout culpabilisant, même à regarder. Enfin les approches sont vraiment scientifiques. Après, comme dans toute étude scientifique, il y a des biais et on peut en discuter. Mais par contre, moi, j'ai trouvé le reportage absolument incroyable sur les parallèles qui sont faits entre une alimentation végétalienne et un mode de vie sportif.
Ça interpelle. C'est vrai que le documentaire interpelle énormément parce que les exemples sont très, très bien choisis. Et oui, effectivement, comme tu dis, il y a certaines choses sur lesquelles tu peux effectivement discuter. Mais quand tu vois tous ces grands sportifs, ça interpelle très clairement. Ouais. En tout cas, ça, c'est un documentaire qui a fait le buzz. Hein.
Ouais. Et puis après, bon, c'est sur la dernière partie qu'il l'évoque un peu, mais c'est vrai qu'il parle aussi des bénéfices éthiques. Et c'est le deuxième grand bénéfice hein, de devenir végétalien ou de devenir végétarien. C'est de ne plus consommer en fait de produits animaux qui sont catastrophiques en fait en termes d'élevage industriel. Hein. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense qu'il y a plein de vidéos qui tournent sur Internet et qui montrent très bien la réalité aujourd'hui hein, de l'élevage et des abattoirs. Mais voilà, décider de ne plus manger de viande, en particulier de la viande industrielle et des produits animaux industriels, c'est faire un choix éthique important. C'est vraiment une décision qu'on prend d'être en pleine conscience en fait de ce qu'on mange, quoi. Et ça, moi, j'y crois vachement. Hein.
Alors, il y a les bénéfices, il y a effectivement les bénéfices éthiques, mais il y a aussi les bénéfices écologiques qui sont un peu la continuité de ce dont tu viens de parler.
Bah, complètement. Hein. Les élevages, c'est des véritables usines à dilapider des protéines, en fait. Parce que pour faire un kilo de protéines, donc de la protéine de poulet, de porc ou de bœuf, il faut en moyenne 5, 7 et 15 kilos de protéines végétales pour les nourrir. Donc, pour une calorie de viande, il faut 7 calories d'origine végétale en moyenne. C'est monstrueux. Si on mangeait tous le régime qu'on mange en France, ce serait une catastrophe. Il n'y aurait plus un champ de céréales dispo, quoi. Et quand on consomme un steak, en fait, un steak, c'est aussi très, très consommateur d'eau. Parce qu'en fait, pour le produire, il faut 10 fois plus d'eau que pour faire des légumes, des céréales ou des légumineuses. Il faut 20 000 litres d'eau pour faire 1 kilo de viande d'aliments végétaux. Moi, je pense que c'est juste, tout est dit, quoi. C'est juste très polluant de manger de la viande.
Ah bah ça, c'est sûr que les chiffres que tu viens de sortir, il n'y a pas photo, très clairement. Et tu as utilisé le mot protéine, on en a un petit peu parlé, comme quoi effectivement, en basculant végétarien ou vegan ou végétalien, tu ne vas pas faire de carence en protéines comme ça du jour au lendemain. Mais il y a quand même un discours entre la protéine animale et la protéine végétale. C'est comment, surtout, on est tous les deux sportifs, quand tu fais du sport, quand tu fais de l'ultra, quand tu as besoin effectivement de produits qui te permettent, notamment la protéine, de bien récupérer, que ton muscle se consolide. Qu'est-ce que tu peux dire sur le comparatif protéine animale, protéine végétale ?
Alors, pour expliquer rapidement le mythe de la protéine végétale qui serait incomplète, je vais essayer de simplifier au maximum. Les protéines, elles sont constituées d'acides aminés. Notre corps, d'être humain, il a besoin de 22 types d'acides aminés pour fonctionner correctement. Cependant, il y a 9 acides qu'on appelle les acides aminés essentiels que notre corps n'arrive pas à produire tout seul. Donc, en fait, ces acides, on les récupère dans notre alimentation. L'une des principales différences entre les protéines végétales et les protéines animales, c'est leur teneur dans ces acides aminés essentiels. En effet, la plupart des protéines végétales sont incomplètes, donc il leur manque au moins un des acides aminés essentiels. Mais ça peut se corriger très facilement en mélangeant plusieurs protéines végétales dans l'assiette. Il y a d'autres aliments à base de plantes qui sont des sources complètes de protéines, par exemple le quinoa et le sarrasin. Il faut aussi prendre, en fait, une fois qu'on comprend ce sujet des acides aminés essentiels, il faut aussi prendre en compte les profils nutritionnels des aliments. Des protéines animales vont contenir du fer et de la vitamine B12, alors que certains aliments à base de plantes n'en ont pas. D'un autre côté, les protéines végétales, elles sont beaucoup plus riches en antioxydants et en fibres, contrairement aux protéines animales. Enfin, dans la protéine animale, la quantité de graisse saturée, comme la viande rouge, vient aussi peser sur la balance parce que c'est vraiment pas terrible pour nos artères. Donc, la meilleure façon de couvrir ses besoins alimentaires, c'est de varier un maximum ses sources de nutriments, dont celle de protéines. Il n'y a pas une protéine, on ne va pas se dire la protéine animale est supérieure à la végétale ou l'inverse. C'est qu'en fait, les deux peuvent être intéressantes, mais on peut tout à fait avoir une alimentation qui est complètement végétale sans se carencer. Il va juste falloir manger du quinoa, manger du sarrasin. Du quinoa, on en trouve du produit en France maintenant. Donc, c'est une céréale qui est super bien. Et sinon, on peut aussi très bien essayer de mixer un maximum de céréales dans son assiette. Au fur et à mesure, il suffit juste, un peu comme dans n'importe quel régime alimentaire, de ne pas manger toujours la même chose.
Et tu sais, on a fait un épisode sur les associations. Et quelle combinaison tu pourrais proposer pour justement garder ce bon équilibre protéinique ?
Par exemple, un riz haricot rouge, un riz lentille. En fait, c'est assez rigolo parce que dans l'histoire de la culture, si tu veux, il y a toujours les combinaisons d'acides aminés essentiels, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas toute cette science, mais qu'on retrouve dans l'assiette. Par exemple, le haricot rouge maïs avec du riz dans la culture mexicaine, c'est une association parfaite d'acides aminés. En Inde, le riz légumes lentille, pareil, c'est une combinaison parfaite avec tous les acides essentiels aminés. Donc, c'est tout simplement de se dire, nos ancêtres avaient vachement de bon sens là-dessus. Est-ce qu'on peut, quand on mange végétarien, essayer de un peu se baser sur ces recettes-là, cette culture-là, pour faire des plats qui sont hyper intéressants, y compris en termes protéiniques.
Alors, c'est vrai, quand on va sur de l'alimentation verte, végétale, il y a trois sujets, moi, qui reviennent quand je me suis documenté et renseigné. Donc, si je l'ai fait, je pense que d'autres le font également. C'est la protéine, on vient d'en parler. Il y a aussi l'assimilation du fer et puis la vitamine B12. Donc, concernant le fer, déjà, si tu peux expliquer pourquoi il peut y avoir potentiellement cette carence en fer quand tu supprimes la viande. Et puis, comment faire pour aller chercher le fer dans l'alimentation végétale?
Ouais, alors le fer, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que c'est vrai que les aliments riches en fer, c'est les aliments qui sont riches en vitamine B9 et B12. Donc il y a notamment les abats, la viande rouge, même le poisson, etc. Donc il y a quand même, c'est beaucoup de produits en général qui viennent de l'alimentation animale. L'autre sujet, c'est que les femmes en particulier, parce qu'elles ont leurs règles, sont davantage victimes d'anémie plutôt que les hommes. Et enfin, le dernier truc qui nuit vraiment à l'absorption du fer, c'est qu'on consomme pas mal de thé et de café. Et en fait, ça vient bloquer l'absorption du fer quand on le consomme proche des repas. Donc, si on veut, voilà, pour déjà le fer, quand on est, même quand on est omnivore, hein, la question n'est pas là, il faut éviter de manger avec du thé vert ou avec du café et vraiment le consommer en dehors des repas. Pour venir après enrichir son régime en fer, quand on est végétarien ou végétalien, il y a quand même pas mal de solutions. Les légumes verts, en général, sont très riches en fer. Les légumineuses, on peut aussi trouver des laits de soja, de tofu, ainsi que des céréales qui sont enrichies en fer. C'est précisé sur le packaging, on en trouve en boutique bio. Donc après, encore une fois, hein, c'est pas un dogme, en fait, et tout le monde n'est pas anémié. C'est quelque chose qu'on peut tester avec une prise de sang.
Exactement.
Donc, en cas de doute, moi, je recommande toujours de faire appel à son médecin généraliste, de faire un petit bilan, parce que on peut très bien être végétarien et en fait, on mange beaucoup de légumineuses, beaucoup de légumes verts et pas du tout être carencé, quoi.
Et concernant la vitamine B12 ?
Alors, la B12, en effet, en fait, et ça, c'est expliqué dans The Game Changers, et j'ai appris ça, c'est hyper intéressant. En fait, avant, même dans l'alimentation végétarienne et végane, on trouvait de la B12, parce qu'en fait, la B12 vient de la terre. On la trouve dans la terre. Le truc, c'est que tous les aliments qu'on consomme aujourd'hui, les fruits, les légumes, les céréales, sont vachement lavés. Il n'y a plus aucune trace de terre dessus, et je ne suis pas sûre que nos organismes toléreraient très, très bien aujourd'hui qu'on mange trop de terre, mais en tout cas, on est dans une culture tellement aseptisée qu'en fait, on ne trouve plus de B12 vraiment dans la terre autour de nos aliments, alors qu'avant, nos ancêtres avaient tendance à en manger un petit peu. Donc en fait, c'est les animaux qui, en mangeant par contre un petit peu de terre, hein, les herbivores, en fait, eux récupèrent cette B12 et ça fait que leur viande est riche en B12. Donc, c'est quand même un peu triste aussi de se dire qu'aujourd'hui, on est obligé de manger quelque chose genre transformé par les animaux pour être sûr de ne pas être carencé. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, la B12, moi, je sais qu'en tout cas, en naturopathie, j'ai toujours recommandé aux gens que je suis d'en prendre. Donc, on en trouve, hein, on en trouve en supplément, on en trouve en huile ou en capsulé, et il suffit d'en prendre un petit peu tous les jours, parce que c'est vrai que ça, par contre, c'est une carence qui arrive assez vite, parce qu'on sait que dans l'alimentation végane, on n'en retrouve pas à l'état naturel.
Ouais, c'est vrai que c'est la seule alerte, on va dire ça comme ça, qui m'avait été donnée quand je me suis renseigné et quand j'ai exprimé le souhait, ça m'a tout de suite mis en alerte sur ça. Ensuite, il y a eu les protéines, on en a parlé, ce genre de choses, mais il y a un aliment, qui revient un peu partout et très souvent quand tu parles de produits véganes, c'est le soja.
Ouais. Alors, le soja, on le trouve partout hein, dans l'alimentation végétarienne et végétalienne et sous plein de formes. T'as le tofu, le seitan, les steaks végétaux, t'en as en dessert, en jus. Parce qu'en fait, les fèves de soja, on ne peut pas les consommer telles quelles. Elles doivent subir une transformation préalable, soit être fermentées, soit être cuites, soit être broyées. Mais c'est vrai que c'est le produit vegan, par excellence, parce que ouais. T'en trouves absolument partout aujourd'hui, quoi. Il y a un peu de controverse sur le soja au sujet de l'effet hormonal du soja. En fait, pareil, je simplifie, mais le soja renferme des substances qui s'appellent les isoflavones et qui sont définies par leur capacité à induire au sein de l'organisme des effets qui sont comparables à ceux des œstrogènes. Les œstrogènes, c'est les hormones féminines. Et elles ont à peu près la même structure, en fait. Après, il faut savoir qu'il y a pas mal d'études hein, qui ont été menées là-dessus. Le seul effet hormonal qu'on a vraiment constaté à l'heure actuelle, il est chez les femmes, et c'est un allongement de 1,05 jours de la durée du cycle menstruel. On n'a pas noté d'autres conséquences. Donc après, bon, sur les cancers hormonodépendants, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on exclut de l'alimentation. Sorti de ça, moi, je suis assez partisane d'y aller pour le soja. Bien sûr que, un peu comme on disait tout à l'heure, tu vois, sur les acides aminés essentiels, faut pas manger que ça. Faut pas manger. Ça peut pas être la seule source de protéines végétales. Mais par contre, c'est vraiment pas un grand méchant non plus. Il y a énormément de cultures en Asie où le soja est consommé de manière journalière, en sauce, en soupe. Enfin, où les graines de soja sont consommées et où il n'y a aucune preuve que ça développerait plus de cancer qu'ailleurs, quoi.
Mais là, depuis le début, Camille, on parle de transition, de basculer vers une alimentation verte, donc végétalisme et véganisme. Mais si une personne qui nous écoute, qui se pose la question, est-ce que ce genre d'alimentation, de mode de vie, est-ce que c'est fait pour tout le monde ou pas?
Oui, sincèrement, oui, et c'est juste à condition de bien s'y prendre. Hein. Ce n'est pas une solution miracle qui va faire que soudainement, vous allez manger vachement mieux et perdre plus de poids. C'est quelque chose, et j'avais écouté plusieurs épisodes où Guillaume, qui co-anime Dans la tête d'un coureur, en parle, et où il parle de sa transition, qui sont hyper intéressants. Et voilà, c'est lui a fait, je pense, le bon chemin. Il s'est renseigné, il a lu, il s'est vachement documenté avant de se lancer. Et puis, il faut aller faire aussi des bonnes courses. L'idée, c'est pas de se frustrer, en fait. Et je pense que, on l'a dit plusieurs fois, toi comme moi, hein, en France, aujourd'hui, être végétarien ou être végétalien, c'est une question d'organisation.
Ouais, organisation, motivation. Guillaume avait été, lui, accompagné par une diététicienne.
Mm-hmm. Je pense que c'est un super truc à faire si on peut se le permettre. On peut décider de procéder soit étape par étape, et dans ce cas-là, le faire vraiment au fur et à mesure, en réduisant les quantités, soit comme toi tu l'as fait, hein, changer tes habitudes du jour au lendemain, et t'es toujours vivant et tu m'as l'air plutôt en forme. Donc,
moi, ça m'a pas du tout. Alors déjà, j'avais une alimentation qui était quand même saine. J'ai pas changé, tu vois. Je suis pas passé de la pizza burger aux légumes, tu vois ce que je veux dire. J'avais déjà une alimentation qui était saine, j'ai juste enlevé effectivement l'alimentation poisson, viande, œufs dans mon alimentation. Donc j'avais déjà une bonne base, donc ça n'a pas été un changement radical du tout au tout, mais c'était quand même un point de bascule important.
Mmh. Après, chaque changement doit se faire en fonction du tempérament de chacun, du temps qu'on a à y consacrer aussi. Et après, je pense qu'il est important de rester vigilant au fait que on équilibre son régime alimentaire au quotidien. Ce que je vous disais en intro, où moi j'étais végétarienne et j'étais une mauvaise végétarienne, parce qu'en fait, une pizza 4 fromages et des frites, c'est végétarien, hein. Et pourtant, c'est pas pour ça que tu manges mieux. Donc, c'est un choix éthique, bien sûr, mais il faut aussi que ce soit un choix qu'on fait, je pense, pour sa santé et pour rendre service à son corps. Donc, faire la part belle aux légumes et aux céréales, c'est vraiment un bon moyen, je pense, de commencer, en tout cas, et de se faire une introduction au végétarisme, quoi.
Ouais, je pense que la prise de conscience, elle est là, en fait. C'est qu'est-ce qui est bon pour mon corps? Et dès qu'on parle d'alimentation, il faut essayer, il faut tester, puisqu'on est tous, même s'il y a des grandes directions, on est tous différents. Donc, ce qui va te convenir à toi ne conviendra pas forcément à quelqu'un d'autre. Et donc, il faut juste le tester et bien essayer de comprendre, être à l'écoute de son corps pour voir quelle réaction ça a sur son corps, quel effet ça produit. Et au fur et à mesure du temps, tu trouveras l'aliment qui va te correspondre à un moment précis dans ta journée, par exemple.
Carrément.
Très clairement. Écoute, merci beaucoup, Camille. On a encore appris plein de choses dans cet épisode.
Super.
toutes les sources que tu as utilisées pour animer cet épisode avec moi seront dans les notes du podcast, donc les personnes pourront s'y rendre. Et puis, n'hésitez pas à envoyer également des messages à Camille si vous avez des questions ou des remarques. Elle se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, un grand merci à toi, Camille. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
À très vite, Arnaud. Bye.